Je voudrais tout de suite que Pierre Vels réagisse un peu. Vous n'êtes pas un agro, hein, vous êtes un X-Pont. Vous avez beaucoup œuvré, je ne vais pas aller dans tout le détail des missions que vous avez faites dans des grandes régions industrielles comme le Nord, Pas-de-Calais en début de carrière, mais vous avez beaucoup travaillé sur les grands programmes urbains. On se rappelle dans le fond un peu ce qu'étaient les objectifs de la DATAR il y a, disons, 40 ou 50 ans. C'était de remédier au déséquilibre, à la grande diagonale qui traversait la France. C'était d'éviter que le désert français ne soit absorbé par la dimension gigantesque de la capitale. Globalement, on peut dire que tout ça a été bien absorbé. Et pourtant, on n'imaginait pas à l'époque que l'on pouvait aller vers ce retour vers la ruralité. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les grandes missions que vous avez dans la carrière vous ont paru être un peu à contre-temps par rapport au constat que vous faites aujourd'hui, ou bien ça vous réconforte?
D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité, un urbain là,
catalogué comme tel, mais qui n'est pas,
comme tout le monde, beaucoup de racines rurales. Puis si vous permettez, je réagirai peut-être en tant que praticien, mais aussi en tant que chercheur sur ces sujets-là. Moi, il me semble, enfin, globalement, l'idée de base que je voudrais défendre un peu devant vous ce matin, c'est que je pense qu'évidemment, cette opposition rural-urbain est extraordinairement structurante, hein, dans notre histoire, dans notre tête, dans les mentalités, la ville, la campagne. Je pense qu'on est en train de passer dans un monde où il faut vraiment qu'on pense les choses de manière plus globale. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société intégrée, où une grande partie de ce qui faisait la spécificité de ces espaces les uns par rapport aux autres est en train de disparaître. Là, je pense que je suis très proche de ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Paul Delevoye dessus. Là, tout à l'heure, l'idée qu'il y a deux mondes, un monde urbain et un monde rural, ça n'est plus la réalité aujourd'hui. Ça n'est plus la réalité. Alors, j'ai regardé tout à l'heure le petit film. En 1991, effectivement, je me souviens, on avait sorti à ce moment-là avec des géographes les cartes sur ce qui s'était passé dans la décennie 80, et on avait une impression un peu terrifiante d'une concentration extrêmement forte sur les villes, de la croissance démographique, de l'emploi, etc. Dans les années 80, ça a été ça, et en particulier de l'Île-de-France. Et puis, sur les cartes de croissance, il y avait des zones très rouges et puis des zones très bleues de décroissance. Et on avait effectivement ce processus apparemment engagé de désertification rurale, au point que la carte de France commençait à ressembler à la carte de l'Espagne, hein, qui est un pays où effectivement tout s'est concentré sur les côtes et à Madrid et dans quelques villes où le rural profond est vraiment devenu un désert. Et puis il ne s'est pas passé du tout ça. Hein. On s'est tous trompés. C'est à un moment où on a commencé à parler de métropolisation, de lier d'ailleurs ça à la mondialisation. Les mots sont apparus vraiment à ce moment-là. On n'en parlait pas avant, très peu. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement? Je ne vais pas redire ce qu'a très bien dit Philippe. Fondamentalement, trois choses. D'abord, la métropolisation a continué, mais de manière beaucoup plus répartie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Île-de-France est plutôt, disons, sur une tendance pas à la traîne, mais un peu moyenne. Les métropoles qui boostent, si on peut dire, c'est les grandes métropoles régionales. Hein, les métropoles à 2 heures de TGV de Paris, il y a une métropolisation aujourd'hui beaucoup plus répartie. Ce qui fait d'ailleurs, au passage, que c'est plus facile, je pense, pour le monde politique de défendre l'idée que la métropolisation est une valeur positive, que si en plus la métropolisation était uniquement parisienne, parce qu'il y a quand même toujours en France un peu cette idée que Paris est une espèce de monstre qui dévore la substance du pays, la centralisation, enfin il y a tout un complexe d'images négatives sur la centralisation et le rôle de Paris, évidemment rentre un peu en collision avec cette idée, je crois qu'il faut qu'on accepte, c'est que dans l'économie mondialisée, il faut qu'on ait des locomotives, et que les locomotives, c'est les économies métropolitaines. Ça, c'est un message qui commence à passer. Deuxième chose qui s'est passée, moi, je ne dirais pas l'étalement urbain, parce que ce n'est pas de l'étalement, c'est plutôt de l'éparpillement et même de l'émiettement urbain. Quand on regarde comment ça s'est passé, la diffusion urbaine, qui au passage a été alimentée quand même largement, pas seulement par l'envie d'aller vivre à la campagne, mais par le fait que les gens n'arrivaient plus à se payer le logement dans les zones urbaines centrales, ça a quand même été ça aussi un moteur. Hein, et c'est... autour des grandes agglomérations, c'est comme ça qui a fait l'essentiel du mouvement démographique, avec une périurbanisation qui a été de plus en plus loin, un front de périurbanisation. Je sais pas, autour de Lyon, il y a 20 ans, c'était à 25 km. Aujourd'hui, on est à 40, 50 km du centre. Et pourquoi les gens vont là ? Et autour de éparpillement, parce qu'en fait, ça se fait essentiellement autour de petits bourgs et de noyaux villageois. Il y a un très bon petit livre d'Éric Charme là-dessus. Il y a 20 000 communes aujourd'hui. La périurbanisation, c'est 20 000 communes. Et avec des croissances un peu en saut de grenouille, là, comme disent les Américains, parce qu'une fois qu'on a, il y a sur une génération qu'il y a un village ou un bourg qui a doublé de volume, eh ben, on va un cran plus loin. Et donc tout ça d'ailleurs est assez, je pense, problématique sur le plan du développement durable, parce qu'amène, c'est ça qui a amené à l'explosion des mobilités, au fait que tous ces ménages qui ont été loin pour pouvoir payer des logements et avoir une vie effectivement plus agréable, ils ont eu en même temps, ils ont des problèmes de transport aujourd'hui, faute de voitures, etc. Et que je ne suis pas sûr que ce modèle soit très durable si le prix du pétrole monte. Donc ça, c'est quand même le phénomène majeur, cette périurbanisation de plus en plus diffuse. Et puis on a eu le troisième phénomène, qui est que même dans le rural, classé comme tel par l'INSEE, modulo les exceptions que tu as citées, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas général, hein, et dans le nord et l'est, et puis dans un certain nombre de régions, mais quand même, la carte, la fameuse carte, elle s'est colorée de rouge et d'orange un petit peu partout, tout en restant dans des densités faibles, hein, parce que quand un village de 30 habitants passe à 35, on a un taux de croissance très, très élevé. Donc on a eu ces trois processus-là. Et certains disent, au fond, l'INSEE a pris une définition très restrictive du périurbain. C'est 40% des emplois qui doivent être dans un pôle urbain. Bon, dans d'autres pays, on prend une définition plus large. On dit par exemple 25% des emplois. Si on disait 25% des emplois, d'ailleurs ça a été un peu l'histoire. À un moment donné, on avait ça avec les ZPIU. Pratiquement tout le pays devenait urbain. Ce qui fait que certains géographes, par exemple Jacques Lévy, un peu provocateur, dit au fond, avec d'autres définitions, il n'y a plus que 4-5% des gens en France qui vivent dans l'espace véritablement rural. Je pense que c'est excessif. Je pense que c'est excessif, mais enfin, on est quand même moins. Deuxième phénomène, l'évolution de la société. Là aussi, tu l'as dit, je ne reviens pas dessus. Aujourd'hui, quand on regarde les profils d'emploi, quand on regarde même les revenus, quand on regarde les sources d'activité, on voit que la différence entre le monde urbain et le monde rural est quand même en train de s'effacer doucement. Ce sont les mêmes profils d'activité. Les ouvriers aujourd'hui sont plus ruraux qu'urbains. L'industrie est plus rurale qu'urbaine. Et l'économie résidentielle, dans l'autre sens, est aussi l'économie qui domine dans les villes. C'est-à-dire que même cette distinction-là, de dire, au fond, le résidentiel, les emplois résidentiels, on les trouve plutôt à la campagne. Bon, les économies résidentielles de Davy, c'est vrai, elles sont souvent dans des bassins d'emplois ruraux, mais dans les villes aussi, la plupart des emplois aujourd'hui sont des emplois résidentiels. Sont des emplois la masse des emplois sont des emplois qui sont liés à la consommation de la population. Pourquoi ? Parce que les emplois qui sont, disons, productifs sur le marché international, etc., sont de plus en plus à haute productivité et créent peu d'emplois. Le monde numérique, par exemple, toutes ces sociétés qui aujourd'hui ont des valeurs en bourse fantastiques, c'est très très peu d'emplois. Voilà. Et là où il y a des emplois, eh ben c'est, par exemple, c'est sur le commercial, tout ce qui est en contact avec le client. Donc, par définition, ce sont des emplois qui sont liés à la consommation. Et surtout, alors, au-delà de simplement de cette ressemblance, je dirais, un peu morphologique, quoi. Au fond, c'est un peu vu, au moins à la loupe, hein, au moins d'un peu loin, mais si on va à la loupe, évidemment, on va avoir des grandes différences. Ces sociétés se ressemblent de plus en plus, et elles se ressemblent aussi de plus en plus dans leur mode de fonctionnement. Là, je reprendrai ce qu'a dit Jean-Paul Delevoye tout à l'heure. Le phénomène fondamental, quand même, aujourd'hui, c'est qu'on passe dans une société qui est une société des individus. Ce n'est pas de l'individualisme au sens un peu moral du terme, ce n'est pas l'égoïsme, mais c'est simplement, il y a ça aussi, mais c'est simplement une société aujourd'hui qui est une société de plus en plus basée sur l'individu et des individus qui veulent avoir chacun et qui se sentent d'ailleurs obligés chacun de définir leur propre trajectoire de vie. Et au fond, ces nouvelles agglomérations rurales, dans le monde rural, ces bourgs étendus, ces villages qui ont grossi, ils ne sont plus du tout sur le modèle du village traditionnel. Le modèle du village continue à fonctionner un peu comme un mythe. Le village, c'était la petite république, la petite patrie de la Troisième République. C'était un endroit où effectivement il y avait une prise en charge collective des problèmes. Aujourd'hui, ils sont aussi éclatés les uns que les autres. C'est Pascal Siby, hein, c'est je crois qui parle de chicherie, non ? Comment il s'appelle ? Bon, il dit au fond c'est un HLM horizontal, quoi. C'est comme les gens le matin ils partent au boulot tous, et puis il y a quelques agriculteurs qui restent, et puis les enfants à l'école.
Mais vous n'avez pas l'impression, finalement, c'est un humoriste comme Alphonse Allais qui disait ça, que les Français rêvaient de la ville à la campagne. Oui. Et finalement c'est un peu ce qui se réalise, mais peut-être aussi parce que comme nous sommes une vieille nation où l'occupation du sol s'est profondément dispersée sur de la campagne, des petites communes, mais des pôles urbains de moyenne une importance. Dans le fond, il y avait une espèce de structure préurbaine qui rendait ce phénomène, je dirais, peut-être assez facilement réalisable. Oui. On vit à la campagne, oui. Moi j'habite à la campagne, j'achète mon journal à 5 km, oui. Mes bouquins à 20 km, pour d'autres choses, je vais vers une capitale régionale à 100. Il y a un nouvel accord espace-temps, oui, qui paraît répondre une espèce de façon d'être... J'ose pas dire français parce que on agrège quand même beaucoup de citoyens de l'Union européenne sur le territoire national, mais il y a là quand même quelque chose de très saisissant.
Oui, alors justement, de ce qu'on vient de dire, à savoir au fond cette ressemblance de plus en plus frappante, enfin le fait que un certain nombre de gens concluent en disant ben il y a plus de rural. Il n'y a plus d'urbain, il y a de l'urbain généralisé. On vit dans une espèce de métropolisation généralisée, d'urbain généralisé. C'est vrai en partie, je pense. Hein. Mais moi, je pense y aller trop loin. Parce qu'il reste justement dans le... au fond, il ne faudrait pas l'appeler espace rural, c'est quand même un terme technocratique. Il reste la campagne. Il reste la campagne. Et je pense que, d'ailleurs, les périurbains, quand on les interroge sur... Il y a évidemment toutes les difficultés de ce mode de vie dont j'ai parlé, parce qu'il est quand même assez compliqué, mais ils mettent en avant le fait que pour aller à leur résidence depuis leur lieu de boulot, ils traversent la campagne. Et donc là, je pense que, là aussi je reprendrai volontiers ce qu'a dit le président Delevoye tout à l'heure, la campagne, je pense, ça reste un truc extrêmement profond chez nous, français, mais aussi sans doute dans d'autres pays, parce que ça c'est des affects. C'est des affects et c'est de l'imaginaire, hein, qu'on essaie de réaliser. Il y a la question des sens. Enfin, ça, moi, j'avais noté ça aussi. Quand on arrive sur le plateau de Saclay, je vais prendre un exemple. Le plateau de Saclay, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas une métropole dans le monde qui a un grand espace productif comme ça à 15 km à vol d'oiseau de l'hypercentre. C'est totalement unique.
Rappelez en deux mots les données de Saclay, que ce soit présent dans tous les esprits. La concentration que vous réalisez là-bas, comment peut-on la définir en quelques mots ?
Oui, Saclay, donc c'est tout à fait extraordinaire puisqu'on a réussi à protéger ce plateau agricole, on peut dire au cœur de l'agglomération parisienne, à 15 km de Notre-Dame. Vous savez qu'on voulait y faire une ville nouvelle, hein, à plusieurs reprises, et puis de temps en temps, et puis encore assez récemment, on disait ben, il faudrait faire, on a besoin de logements en Ile-de-France, là tiens, on pourra en faire en masse. Bon, il y a eu une mobilisation très forte, hein, qui date d'ailleurs... Quand le CEA s'est installé, déjà, les agriculteurs du coin se sont beaucoup, beaucoup battus pour garder leurs terres. Bon, finalement, on a réussi à garder. On l'a aujourd'hui sanctuarisé, d'ailleurs, par la loi. Bon, mais pour en reparler tout à l'heure, si vous voulez, mais ce qui frappe quand même quand on arrive là, c'est qu'on voit le ciel. Hein, on voit le ciel. À Paris, il y a le ciel, mais on ne le voit pas, on ne le regarde pas. Il y a des très beaux cieux à Paris, mais enfin, on ne les regarde pas. À Saclay, comme il n'y a rien d'autre à voir, je veux dire, quelque part, on rentre dans une autre dimension. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui...
Ça change tout pour un pôle de recherche et d'innovation ?
Alors, oui, je pense qu'on va essayer de trouver... il faut qu'on essaie de valoriser ça. Hein. Il faut qu'on essaie de valoriser ça. Mais je pense que cette dimension de la campagne, elle est en train de se redéfinir très profondément. Parce qu'on avait au fond deux modèles. On avait le modèle des parcs, de la protection, de la wilderness. Il faut préserver complètement. Et puis on avait pour les urbains le modèle de l'espace récréatif qui s'appelle poumon vert quand c'est à l'extérieur et qui s'appelle espace vert quand c'est à l'intérieur. Difficile de trouver un mot plus technocratique mais en même temps plus significatif. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est une vision fonctionnelle hygiéniste, c'est au fond, et l'agriculteur, bah, l'agriculteur, il est quelque part en silhouette, en fond de tableau, hein, il cultive, il passe sur son tracteur, mais c'est bien qu'il soit là parce que finalement, il entretient le poumon vert, etc. Je pense qu'on est en train de sortir de ça, et c'est ça que je trouve tout à fait fascinant. Pourquoi ? À la fois parce qu'il y a la montée de la conscience écologique et que les urbains se rendent compte maintenant que l'agriculture rend des services écologiques majeurs pour l'entretien des écosystèmes, etc. Ils ont parfois tendance à réduire un peu les agriculteurs à ça. Et il y a aussi le fait que les questions de la nourriture, les questions de la nature, tous ces sujets-là redeviennent pour les urbains des sujets absolument majeurs. Et donc, cette vieille idée qui déplaît tellement aux agriculteurs, et on comprend de les considérer simplement comme gardiens des poumons verts ou des espaces verts, et puis en même temps fondamentalement comme une réserve foncière pour une urbanisation qui est quand même par principe plus importante que le maintien de l'espace agricole, c'est en train quand même je ne dis pas que ça a changé massivement, mais c'est en train de changer cette affaire-là. Et on s'aperçoit qu'on est capable de bâtir de nouvelles formes d'alliances et qui ne reposent pas simplement sur le fait que les uns gardent un paysage et que les autres en profitent. Pour ça, par exemple, les circuits courts, c'est évident qu'on nourrira pas les métropoles avec les circuits courts. Il faut arrêter de rêver. Alors, certains pensent ça, c'est totalement absurde. Ça fait très longtemps que Paris a toujours été sur le fil du rasoir, même sous l'ancien régime en matière d'alimentation. C'est une des constantes de l'histoire de France, beaucoup plus que Londres, par exemple. Bon, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va nourrir Paris avec le plateau de Saclay. Mais en revanche, ça crée des formes de relations différentes, ça crée du lien social, ça recrée du lien social. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Rüdiger Safranski qui a écrit un petit livre magnifique qui a malheureusement pas été diffusé qui s'appelle « Quelle dose de mondialisation l'homme peut-il supporter ?» Et au fond, il pointe ce sujet que la grande difficulté dans le... Moi, je suis pro-mondialisation parce que je pense que c'est une occasion fantastique d'ouvrir nos liens avec le reste du monde, etc. Mais la grande difficulté, c'est que on a quand même... le monde est trop grand quoi, pour qu'on s'y identifie. Et donc, il utilise le terme de clairière, mais dans un sens métaphorique. Il dit il faut que nos sociétés occidentales, qui sont dans une jungle de relations absolument indéchiffrables, où tout le monde communique avec tout le monde, mais en restant en même temps en petit cercle, hein, parce que c'est ça, c'est aussi des sociétés très archipélisées, il faut arriver à redéfinir des clairières. Et moi, je trouve, alors évidemment, le terme est... on peut le prendre dans un sens positif ou négatif. Moi, je le prends dans un sens positif. Je pense que cette nouvelle négociation qu'on va avoir entre les urbains et les ruraux, c'est de reconstruire dans notre société des clairières, au sens physique et au sens imagé du terme. Et ça change, je termine, excusez-moi, ça change aussi la vision de l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur qui était en fond de tableau, moi, je suis très frappé maintenant, chez les urbains, redevient une figure emblématique. Moi, je vois sur le plateau de Saclay, les agriculteurs organisent des visites de leurs fermes et tout ça. Alors, vous me direz, c'est un peu les bobos versaillais et autres, hein, mais parfois un petit côté Marie-Antoinette dans cette affaire-là. Mais je parle très librement, hein, mais les gens, quand même, il y a une redécouverte. Tiens, l'agriculteur, c'est vraiment fondamental parce que l'agriculteur, bah, c'est le rapport à la nature, c'est le rapport à la nourriture, c'est l'écologie. Au fond, c'est un métier, alors que dans le reste des activités industrielles, on a beaucoup perdu la notion de métier. Et donc l'agriculture, maintenant, à mon avis, fait rêver.